Dans Grain de Beauté, ce matin, je vous propose de parler d'hypnose. Alors l'hypnose, ça reste une discipline assez méconnue et on a parfois des préjugés sur cette pratique. Alors ce sera l'occasion, lors de cette émission, d'entrer dans les détails, surtout que j'ai le grand plaisir de recevoir une spécialiste en la matière. Il s'agit de Cynthia Nabé, qui est hypnothérapeute, spécialiste de l'hypnose humaniste et ericksonienne. On saura tout à l'heure ce que ça signifie. Et coach en entreprise. Cynthia, bonjour.
Bonjour Léa.
Merci d'être avec nous ce matin, Cynthia.
Avec
c'est vrai
plaisir.
Que l'hypnose, c'est assez mystérieux. Ça reste assez mystérieux pour la plupart d'entre nous. On a même parfois un peu peur d'entrer dans le cabinet d'un hypnothérapeute. On ne sait pas trop si on va pouvoir maîtriser ce que l'on va dire. On se dit, oulala, qu'est-ce qu'il va me faire faire ? J'en ai peur. Alors, là, vous êtes là ce matin avec nous pour nous parler de cela. Comment d'abord on définit l'hypnose et puis après vous nous direz comment ça se passe.
Alors, déjà, je vais tordre le cou à quelques préjugés. Oui. L'hypnose, c'est très ancien. Il faut savoir qu'en France, ça fait plus de 250 ans
ah oui.
qu'on utilise l'hypnose, notamment à l'hôpital. Si je vous dis Charcot,
oui.
vous allez dire, bah oui, bien sûr, la salpêtrière.
Mais
Charcot,
oui.
ça date des années 1850.
Et déjà, il utilisait
l'hypnose.
Bah, et donc, les préjugés ont la peau dure.
Et bah oui, quand on entend l'hypnose rentre à l'hôpital, en fait, l'hypnose n'a jamais quitté l'hôpital. En plus de ça, cocorico, parce que c'est en France qu'on a expérimenté longtemps l'hypnose et à ses débuts. Donc, Hippolyte Bernheim, aussi l'hypnose, l'école de Nancy, et tout ça, ça date du 19e siècle. Donc déjà, ça, pour commencer, c'était bien de le poser.
Ça assoit la matière.
C'est quelque chose qui est loin d'être nouveau. Il y a eu une déperdition avec Freud et Jung, qui utilisaient l'hypnose eux aussi.
On va en parler, du lien.
On va en parler du lien. Mais qui utilisaient l'hypnose eux aussi, mais c'est quelque chose de très ancien. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'hypnose ? Pour répondre à votre question, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Tout simplement. Au même titre que le rêve, qui est un état modifié de conscience. C'est-à-dire, l'état de conscience habituel, c'est comme vous et moi,
quand on maîtrise ce que l'on dit.
Et on maîtrise ce que l'on dit sous hypnose.
Aussi,
contrairement aux idées reçues. Et oui, on peut très bien mentir à un hypnotiseur si ça ne nous plaît pas.
Ah,
on ne fera
première
jamais.
Première nouvelle.
Et oui.
Là, c'est un préjugé qui tombe, là, déjà.
Alors, c'est un préjugé qui tombe, mais même à la télé, quand vous voyez Mesmer, parce que c'est souvent le plus connu.
Avec ses beaux yeux bleus.
Même Mesmer, il explique très bien. Il dit on ne peut jamais faire sous hypnose quelque chose qui va contre sa volonté ou sa morale.
Est-ce qu'on peut dire que quand on est sous hypnose, on est entre le sommeil et l'éveil ?
C'est tout à fait ça.
C'est ça.
Un état de transition entre le sommeil et l'éveil. D'ailleurs, on l'expérimente tous au moment de s'endormir tous les jours.
Oui, c'est vrai.
Le moment où on est là et puis on est en train de s'endormir, on entend encore les bruits de la maison et puis à un moment donné, il y a quelqu'un à côté de nous qui fait « Tu dors !» Et là, on fait « Oui
!» Et bien là, on est sous hypnose.
En fait, c'est cet état-là où on est entre veille et sommeil.
Oui.
Ça, c'est l'état d'hypnose classique.
Il y a une question que je n'avais pas prévue, mais qui me vient tout de suite à l'esprit. Comment se fait-il, parce que vous parliez de Mesmer, comment se fait-il qu'on soit capable de faire des choses un peu surhumaines, que le corps puisse se raidir si on nous donne l'ordre de le faire? Enfin, est-ce que c'est du pipeau, ça, ou c'est vrai?
Non, c'est tout à fait vrai.
Mais
le corps et l'esprit est une machine extraordinaire.
Ah oui.
Avec des ressources insoupçonnées.
Ouais. Ça veut dire que quand on est en état d'éveil, on pourrait réaliser les mêmes choses, mais sauf notre tête nous l'interdit.
Bien sûr. En fait, notre esprit conscient, notre mental, on va appeler ça le mental pour faire simple, notre mental nous limite.
Ah.
Mais c'est notre mental qui nous limite. Techniquement, il n'y a aucune limite. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau est tout à fait illimité, à des ressources insoupçonnées.
C'est ça,
inexploré
encore.
Voilà, c'est complètement inexploré.
Alors, ce qui rend
les sportifs, l'expérimentent. C'est-à-dire que Par exemple, des sportifs qui vont utiliser l'hypnose pour améliorer leur performance, hein, et ben, ça marche très très bien.
Wow, ah oui, ouais, ouais. Alors, ça signifie que cet état d'hypnose, va, c'est pour ça qu'il est intéressant cet état. C'est parce que comme les limites tombent, les obstacles tombent, finalement, les obstacles qu'on se met soi-même tombent. À partir de là, on va pouvoir travailler sur la personne.
Exact. En fait, ce qui tombe, c'est la limite entre le conscient, donc ce que j'ai appelé le mental tout à l'heure, le conscient et l'inconscient. C'est cette limite-là qui se ramollit. Mmh. Elle ne tombe pas complètement, sauf si on a de l'entraînement et qu'on on s'exerce à l'auto-hypnose ou qu'on va régulièrement voir un hypnothérapeute. À partir de ce moment-là, bah, l'esprit devient beaucoup plus perméable. Mmh. Et effectivement, au bout d'un certain temps, les limites, elles tombent. Ouais. Mais on a quand même toujours notre conscience. D'accord. Qui garde l'œil sur, attention, est-ce qu'elle va dire une bêtise ou est-ce qu'il va dire une bêtise ou pas.
D'accord. Voilà. Donc, quand
ce qu'on appelle l'ego observer, ce que Milton Erickson appelait l'ego observer.
Alors tiens, puisque vous parlez théorie, dites-nous, puisque vous êtes spécialiste en hypnose ou en hypnothérapie ou en hypnose humaniste et ericksonienne. Alors j'imagine qu'il y a énormément de courants. Quelles sont les caractéristiques de ce courant-là?
Alors, il y en a quatre des courants. Il y a l'hypnose, je vais les séparer en deux grandes catégories. L'hypnose dissociante, ce qu'on appelle l'hypnose classique, ce que pratique notre cher Mesmer à la télévision. L'hypnose, et qui est le premier type d'hypnose, ce type d'hypnose qu'utilisait Charcot, par exemple, au 19e siècle.
Une hypnose, une hypnose. Je pense qu'on dit une.
Une séance d'hypnose.
En tout cas, c'est plutôt spectaculaire, là, celui-là.
C'est effectivement spectaculaire et impressionnant. Et à l'époque, il faut se remettre dans le contexte du 19e siècle. Effectivement, il fallait impressionner les gens. Les gens étaient très impressionnables. Donc, effectivement, il y avait le côté spectacle, etc. Par exemple, l'abbé Faria qu'on voit dans Le Comte de Monte Cristo, qui arrivait avec sa croix comme ça et qui arrivait à hypnotiser les gens juste en débarquant comme ça devant eux, en brandissant sa croix. Et puis, les gens tombaient en transe parce que ça les choquait, parce qu'ils étaient choqués. Quoi, parce que c'était très impressionnant. Alors, aujourd'hui, les choses ont un peu évolué.
Oui. Parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse... J'ai l'impression que c'est du spectacle. Et c'est faux. Hein. Quand en quelques secondes, on endort quelqu'un.
Il faut savoir que dans ce type d'hypnose-là, notamment Mesmer, alors je suis désolée, monsieur Mesmer, je vais un peu, casser les secrets de magicien.
Oui, c'est vrai.
Voilà. En fait, il choisit un petit peu, sélectionne ses participants. D'accord. Quand il leur fait faire les petits jeux du début, coller les doigts ensemble, etc.
Ce sont des gens déjà perméables.
Voilà. En fait, il va éliminer les gens qui voient. Il voit tout de suite qui est perméable, c'est le mot, c'est exactement le mot, perméable et qui l'est moins.
Ah oui. Alors je vous ai interrompu, pardon. Donc
l'hypnose dissociante, et donc on a l'hypnose classique, l'hypnose dite ericksonienne. Mmh. Alors de Milton Erickson, alors il n'y avait que Milton Erickson qui faisait de l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, il y a très très peu de gens, voire plus du tout d'hypnothérapeutes qui fait de l'hypnose ericksonienne. Mmh. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle de la nouvelle hypnose, qui mélange en fait l'hypnose et la PNL beaucoup, parce que tous les protocoles thérapeutiques d'hypnose dit ericksonienne aujourd'hui, qu'on a appelé nouvelle hypnose, qui date de 1979, la nouvelle hypnose, vont permettre un état de dissociation entre le conscient et l'inconscient, cet état entre veille et sommeil. Mm-hmm. Donc tout ça, ce sont des hypnoses dissociantes, c'est-à-dire qu'on va intégrer, je vais faire le lien justement avec la dernière pratique, on va faire le lien, permettre avec un phrasé particulier, à la personne de s'absorber. Ensuite, une fois qu'elle s'est absorbée, ça va permettre au conscient et à l'inconscient de se dissocier. Mmh. Donc, c'est cet état-là de dissociation qui va faire que la personne entre en transe, va plonger en transe. Mmh. En hypnose humaniste...
Ça devient une page blanche et on va pouvoir travailler dessus.
Alors, c'est surtout pas une page blanche.
Ah bon. C'est une mauvaise image.
C'est surtout pas une page blanche. Bien au contraire, ça va permettre au thérapeute d'aller activer les ressources intérieures de la personne.
D'accord.
Donc, on n'est pas une page blanche.
D'accord, d'accord.
Bon. Contrairement aux idées reçues. Mm-hmm. Et le thérapeute n'est surtout pas dans la tête de la personne. Mm-hmm. Jamais. Mm-hmm. Ça, je le dis tout le temps à mes patients. Je dis, mais je ne suis pas dans votre tête.
Ouais.
Contrairement aux idées reçues. Oui. On peut calibrer, voir comment la personne réagit, comment la personne réagit aux suggestions qu'on lui propose. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête réellement. Mm-hmm. Alors, d'accord. Avec la pratique, l'analyse devient un peu... l'observation devient beaucoup plus fine et de plus en plus fine, ce qui nous permet d'être de plus en plus intuitif. D'accord. Mais on ne sait pas ce qui se passe exactement dans la tête de la personne. Mmh. Et en hypnose dissociante, ce qui va se passer très souvent, c'est que la personne, elle ne peut plus parler. En fonction de la profondeur de sa transe, elle n'arrive plus forcément à parler.
Oui, ce qui peut nous arriver parfois, même en état d'éveil, quand on est choqué par un événement, ça nous coupe les mots.
Alors, hein. Vous m'enlevez les mots de la bouche.
C'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Le choc psychologique provoque un état dissociatif, parce que le cerveau est très, très bien fait. Mm-hmm, mm-hmm. Et ça provoque un état dissociatif et on n'arrive plus à parler.
On ne peut plus parler.
Voilà. C'est un état d'hypnose. C'est un état de transe. La personne, d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle dit « j'étais hors de moi
mm-hmm. ». Et d'ailleurs, je pense, parce que je fais une parenthèse dramatique, mais les rescapés de la Shoah qui ne peuvent pas, qui n'ont pas pu
au-delà du
parler,
dissible.
Voilà, qui ne peuvent pas mettre les mots. Hein,
les alors mots, là, on touche encore à un autre sujet et le psychiatre Boris Cyrulnik en parle mm-hmm. très très bien dans son livre Sauve-toi, la vie t'appelle. Mm-hmm. Là, il explique le fait que justement le fait de ne pas avoir pu exprimer ce qui s'était passé. Alors, notamment en France, c'est très spécifique, on fait une parenthèse là,
oui.
C'est très spécifique à la France parce que les rescapés qui sont partis aux États-Unis, par exemple, on les a écoutés.
D'accord, la parole était
libre. La parole était libre. Donc, ils ont pu sortir ce qu'il y avait à sortir. Mmh. Après qu'on les ait crus, qu'on les ait pas crus, c'était encore un autre débat. Mmh. Mais en France, il fallait pas en parler. Même les personnes qui avaient vécu la guerre et qui étaient, les Français qui étaient restés sur place, j'ai envie de dire, il fallait plus parler de la guerre.
C'est ça. Donc, il y a aussi l'effet de la culture en France. Qui a fait que c'est rescapé.
Exactement. Donc Boris Cyrulnik parle d'encryptage, mm-hmm. c'est-à-dire mettre mm-hmm. dans la crypte, on enterre le tout et puis on met un couvercle dessus. Et ça a été terrible.
Alors Cynthia, restez avec nous. On va marquer une petite pause. On se retrouve juste après et cette fois on va entrer dans les détails de l'hypnose humaniste et mm-hmm. puis on verra concrètement avec des exemples précis comment ça peut se passer une séance d'hypnose.
À tout de suite.
On se retrouve dans la seconde partie de Grain de Beauté. Ce matin, dans Grain de Beauté, nous parlons d'hypnose en compagnie de Cynthia Nabé, qui est hypnothérapeute. Alors Cynthia, vous étiez en train de nous parler de la théorie des différents courants. Il y a ce courant dissociatif, j'allais dire, si on peut l'appeler
dissociant.
Dissociant, entre le conscient et
l'inconscient.
Et puis, il y a ce courant qui est le courant
humaniste. Alors, l'hypnose humaniste, c'est un courant qui est assez récent, qui date de 2001, qui a été fondé par Olivier Locquer et son épouse Patricia D'Angeli Locquer, et qui s'appuie en fait sur une inversion technique, finalement. C'est-à-dire qu'au lieu de dissocier la personne, au contraire, on va la garder très associée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la personne ne va avoir besoin de lâcher prise, ce fameux lâcher prise que tout le monde... Mais j'arrive pas à lâcher prise. Et bien, en fait, en hypnose humaniste, justement, je ne veux surtout pas que la personne lâche prise. Hein. J'ai mm-hmm. besoin qu'elle reste bien associée, bien présente pendant toute la durée de la séance. Il y a un échange qui se fait, qui est très interactif pendant toute la durée de la séance. Et contrairement aux autres types d'hypnose où le thérapeute, quelque part, c'est lui qui prend la main de la mm-hmm. séance, en hypnose humaniste, le thérapeute ne sert que de guide.
Mais alors, quelle est la différence avec un psychothérapeute ?
Alors, la différence avec un psychothérapeute, c'est que malgré tout, on est en état modifié de conscience. Alors, au lieu de plonger en transe, d'être absorbé, on s'élève en transe, c'est-à-dire qu'on est encore plus conscient, un peu, c'est pas d'ailleurs comme un peu, exactement dans le même état qu'on pourrait expérimenter dans le cadre d'une méditation ou dans le cadre de, d'une prière faite avec ferveur. Voilà, puisque nos auditeurs,
oui,
il y a certains de nos auditeurs sont ouverts à cette notion. À cette notion-là. Eh bien, dans le cadre d'une prière très faite avec beaucoup de ferveur, oui, à un moment donné, on se sent connecté. Et bien, en fait, en hypnose humaniste, on va provoquer cet état de connexion.
On pourrait dire qu'il y a une transcendance. Dans
exactement,
ce cas-là.
C'est exactement ça.
Dans l'autre, il y a une ascendance, peut-être. C'est-à-dire, on descend en soi, on entre en soi, non ?
On entre en soi en hypnose dissociante, mais pas ascendance, parce qu'il y a l'idée que peut-être le thérapeute pourrait prendre le contrôle de l'esprit de la personne.
Et ça, non.
Non, c'est
à
pas...
À aucun moment.
C'est pas vrai. Ou alors, si c'est le cas, c'est que c'est OK pour la personne. Mm-hmm. C'est OK pour le
d'accord,
patient.
C'est qu'elle se laisse faire.
C'est qu'elle se laisse faire.
Et qu'elle veut bien,
et
se,
qu'elle
laisser
veut bien se laisser faire.
D'accord.
Voilà. Ou alors que le thérapeute est quelqu'un de malveillant, on peut jamais l'éviter. Et ça, malheureusement, y a du bon et du mauvais partout. Mm-hmm. Voilà.
Alors, donc, on a bien compris les deux courants d'hypnose. Maintenant, concrètement, quels sont les champs d'application de l'hypnose ?
Alors, en ce qui concerne les champs d'application de l'hypnose humaniste spécifiquement, ils sont extrêmement vastes. J'ai envie de vous dire, techniquement parlant, et j'appuie sur le terme techniquement parlant, il n'y a aucune limite à cette hypnose-là.
D'accord. Tout type de problématique que l'on peut ressentir, qui nous pose problème dans notre vie courante, on peut venir vous voir et vous dire, voilà, j'y arrive plus avec mes enfants, je sens que je n'ai pas confiance en moi, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie de...
Alors, oui. Oui, parce que, en fait, l'hypnose humaniste repose sur le principe philosophique que on est tous connectés à notre milieu, à notre environnement. Que ce soit notre environnement naturel, au sens de la nature, seulement depuis plus d'un siècle, même peut-être un petit peu plus, l'être humain s'est déconnecté de son environnement concret, son environnement naturel, du lieu. Et on est connectés les uns aux autres. Si vous voulez, c'est l'œil humain, au sens anatomique du terme, qui nous fait croire, quelque part, c'est l'interprétation que fait notre cerveau, qu'on est séparés les uns des autres. Maintenant, si on prenait au microscope l'espace qui nous sépare, vous et moi, là, voilà, on est dans le studio.
Ah, moi, je me sens très proche de vous,
L'espace qui nous sépare, en fait, on s'apercevrait qu'il y a plein de molécules de plein de sortes différentes qui nous relient, qui font comme un lien entre nous.
Eh oui.
Voilà. Alors, l'hypnose humaniste va utiliser ce lien pour nous faire ressentir cette connexion. Résultat des courses, pour revenir à la question, le fait de prendre en compte cet état de connexion va faire que on va pouvoir agir et interagir sur quasiment tous les aspects de la vie. Je vais mettre quasiment pour être prudente.
Voilà, donc on a bien compris, le champ d'application, c'est très large, c'est très vaste. Dès lors qu'on a qu'on ressent une petite problématique.
Une difficulté dans sa vie.
Dans sa vie. Alors, concrètement, on est là, on est assis l'un devant l'autre et on parle. Ou est-ce qu'on est dans la position allongée? Techniquement, je sais que vous êtes passé à la télé il y a quelques semaines. 15 jours dans l'émission de Stéphane Bern dans Comment ça va bien.
Comment ça va bien, oui.
Peut-être qu'on peut aller voir sur YouTube
Ou directement sur le site de France 2.
Sur le site de France 2 pour voir cette émission. Voilà. Là, on a concrètement les images.
Exactement. Alors, moi, à mon cabinet, je suis... la personne, elle est assise dans un fauteuil bien confortable et je suis assise en face d'elle. Maintenant, ça dépend de l'exercice. Il m'arrive très régulièrement de faire en sorte que... de demander à la personne de se lever parce que la technique à utiliser à ce moment-là, parce qu'il y a quand même des protocoles techniques, des protocoles thérapeutiques, de demander à la personne de se lever parce que c'est opportun et parce que c'est le protocole qui veut ça. Maintenant, on peut très bien aussi travailler allongé. Pense à une patiente qui a des problèmes de dos et la position assise n'est pas confortable pour elle. Eh bien, elle s'allonge par terre et puis je m'assois par terre avec elle.
Donc le confort, j'ai bien compris, le confort pour la patiente. Je dis patiente entre guillemets parce que ce sont des gens qui sont en état de souffrance quand même.
Oui.
Donc on pourrait dire
on
patient. Et donc le confort pour cette personne. Et là, vous discutez en état de conscience avec elle.
Complètement.
D'accord. Et c'est vous qui menez la barque, donc vous lui posez les questions, vous écoutez ses réponses, et puis un peu à la mode du psychothérapeute.
Alors oui, d'autant plus que le mot psychothérapeute était un néologisme au 19e siècle, qui voulait dire, alors qui a été inventé par Bernheim, justement, qui voulait dire thérapie par la suggestion hypnotique.
Ah, d'accord, donc le mot est bien choisi. Alors maintenant, ma question, je sais que vous l'avez relevé tout à l'heure en antenne, que peut-on espérer de l'hypnose? Voilà, le terme guérison, vous l'avez rejeté.
Je ne le rejette pas, seulement il ne m'appartient pas en tant que thérapeute.
D'accord.
Je suis là pour soigner la personne qui vient me voir parce qu'elle est en souffrance, la guérison lui appartient.
D'accord. La guérison est entre les mains du patient.
La guérison est toujours entre les mains du patient. Donc posez la question au médecin, ils vous diront exactement la même chose.
Alors, qu'entendez-vous par soigner? Alors, une personne, par exemple, qui veut arrêter de fumer, bien sûr, là, c'est clair. La personne, si elle arrive à arrêter de fumer, il n'y a plus de nécessité de retourner chez l'hypnothérapeute. Oui, je bafouille. Et alors, comment ça se passe pour les autres? Est-ce qu'on peut espérer un soin?
Alors,
définitif.
Parce que l'hypnose humaniste intègre dans ses techniques tout ce que l'on va appeler la thérapie symbolique avancée, qui est en fait une émanation de la psychologie jungienne et qui va en fait, on va allier l'hypnose à la psychologie jungienne. Du coup, elle va pouvoir soigner ses blessures. Ces blessures d'enfance, ces blessures fondamentales.
Est-ce que c'est la personne elle-même qui décide quand c'est suffisant pour elle? Est-ce que c'est ça aussi ce que vous attendez de la personne?
Toujours. La personne, elle est libre de dire stop ou encore.
Néanmoins, on conseille quand même une récurrence, j'imagine, pour des problématiques peut-être plus ou moins vastes.
Tout dépend. C'est à la personne de dire comment elle ressent les choses. Si au bout d'une séance, elle est beaucoup mieux et que pour l'instant, ça lui va, eh ben, ça me va.
Oui, c'est ça.
Moi, ce que je cherche, c'est avant tout le confort de la personne et sa satisfaction. À partir du moment où elle me dit, pour moi, c'est OK, pour l'instant, ça va, je ne suis pas prête à passer à l'étape supérieure parce que je sens que ça pourrait modifier, bouleverser des choses en moi, c'est OK pour moi.
Je
On va respecter l'écologie de la personne.
Voilà, il faut qu'elle se sente bien, tout
il
simplement.
Il faut qu'elle se sente bien, tout simplement.
Ouais. Donc après, on n'est pas tous égaux, j'imagine, devant cette pratique.
Si.
Oui, ah bon
si.
Ah,
c'est beau. Bon, voilà, en hypnose humaniste, si.
Là, vous m'avez coupé les mots. Là, vous avez fait l'hypnose dissociante.
J'ai fait une interruption de pattern, ce qu'on appelle techniquement parlant. Alors, si, en fait, en hypnose humaniste, oui, parce que c'est un état qui est un état tellement agréable pour la personne. Elle se sent tellement bien que, de toute façon... il n'y a pas de lâcher prise nécessaire en hypnose humaniste. Donc, c'est la personne qui garde le contrôle. Moi, je ne sers que de guide. Elle veut faire. Si elle veut faire, elle fait. Si elle ne veut pas faire parce que, en toute conscience, et j'utilise le mot conscience avec un grand C, c'est pas OK pour elle, elle ne le fera pas. Elle ne le fera tout simplement pas. Elle ne va pas rentrer dans l'exercice.
Alors, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus accessible pour l'ensemble des personnes.
Et oui, on l'utilise en entreprise, même. L'hypnose humaniste,
oui,
on peut l'utiliser en...
coach.
Et oui, on peut l'utiliser en entreprise, l'hypnose humaniste, alors que l'hypnose dissociante, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus délicat. C'est pas compliqué, c'est délicat parce qu'il y a une espèce de... En entreprise, on est dans le milieu du travail et que la personne, elle n'est pas forcément à l'aise avec le fait je suis sur mon lieu de travail, j'ai pas envie de me retrouver la bave aux lèvres et la main en l'air.
Oh, quelle image.
C'est souvent l'image qu'a donnée de l'hypnose dissociante.
Cynthia, je vous remercie beaucoup. Je sens que notre conversation n'est pas terminée. On va pas en rester là, ça je peux vous
Avec
le dire.
Plaisir.
Vous allez revenir dans le grain de beauté pour continuer de parler de l'hypnose. Oh, oui, ça me fait du bien. Je sais pas, ça me fait... Et voilà, je viens de faire une séance. Merci Cynthia. Je rappelle, vous êtes Cynthia Nabé, hypnothérapeute, spécialiste de l'hypnose humaniste.
On peut me trouver sur mon site internet cynthianabé.com.
Cynthianabé.com. Merci beaucoup. À
bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Léa. Au revoir.